Vous écoutez
RMC. RMC.
L'Afterfoot.
Timothée Mémon.
23h, bienvenue dans l'After. Si vous nous rejoignez, on parle depuis tout à l'heure de l'élimination. C'est l'information de la soirée de Strasbourg en barrage de l'Europa League. Les Strasbourgeois ne joueront pas à l'Europe cette saison. Il faudra se contenter de Rennes et de Saint-Etienne en Europa League. Tirage au sort demain autour de 13h. Pour les groupes de l'Europa League. On va parler tout à l'heure des groupes de la Ligue des Champions. On les connaît, le Paris Saint-Germain jouera face au Real, à Bruges et à Galatasaray. Lyon affrontera le Zénith, le Benfica et Leipzig. Et Lille devra se fader Chelsea, l'Ajax et Valence. Gros tirage pour le LOSC. Alors vous le voyez si vous nous rejoignez à la télé et si vous êtes en radio, vous ne vous rendez pas compte, mais ça va pas tarder. Nos drôles de dames nous ont rejoint. Simone Rovera est avec nous, bonsoir.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Et Fred Hermel est également avec nous. Salut Fred.
Voilà, chicos.
T'as enlevé des lunettes ?
Et Julien Laurence, dans quelques instants, qui sera avec nous depuis chez lui. On remet les lunettes. C'est pas extrêmement radiophonique.
Mais la laine, c'est important quand même parce que mon ami Simone Rovera, qui est l'un de mes meilleurs amis aujourd'hui, m'a emmené dans un très bon resto italien. Et voilà, il y avait un peu d'ail dans les pâtes. Et donc, je testais parce que je voudrais pas t'envoyer des effluves d'ail.
Ça sent plutôt la grappe.
L'ail plus le Dijon qui se font enfiler.
En fait, ça sent plus la grappe.
Oui, ouais, ouais. Là, on voit que tu sors de table.
Ouais. Là, c'est bien comme ça. Voilà. Oui,
Et alors, si on peut appeler la maquilleuse aussi, qui va te mettre un peu de poudre blanche, parce que t'es un peu rouge, en fait, du Dijon.
C'est parce qu'il fait chaud à Paris.
Voilà. En tout cas, on va revenir vers vous, messieurs, dans un instant pour parler du tirage au sort de la Ligue des Champions. Avant cela, on va terminer avec le débrief de ce match entre Francfort et Strasbourg. On est avec Claude, qui est supporter de l'AS Saint-Etienne, mais qui a suivi ce match en tant que supporter français, que supporter des clubs français, que passionné. Claude, en tout cas, c'est ce que tu nous as laissé entendre en antenne, tu es un petit peu agacé par le comportement des clubs français.
Agacé, je suis plutôt peiné pour eux. Déjà, bonsoir tout le monde. Et puis, une petite précision, je suis supporter de Saint-Etienne en France et de Mönchengladbach en Allemagne, donc mon cœur était partagé ce soir.
Il y a pire.
Ah.
Non, bah c'est Polo.
Donc, d'ailleurs, au passage,
ça a fait un match de Coupe UEFA qui avait mal tourné pour les Verts.
De Manu, supporter de Liverpool, qui m'a dit Polo, grand fan de Zhang Paoli. J'ai dit, il y a aussi l'Union de Berlin.
Non, Zhang Paoli, là, non, je suis pas un lecteur de Libé, moi.
Voilà, ça c'est dit.
Je transmettrai à Manu, nous avons passé quelques soirées devant la Bundesliga où les clubs allemands ensemble au Roche Bar.
Claude, parle-nous du match de ce soir.
On revient au match. Donc, moi, si j'étais un formateur d'entraîneurs français à Clairefontaine, dans le package de formation de l'entraîneur, je leur dirais, quand vous jouez une équipe d'un des quatre championnats majeurs à l'extérieur et que vous réussissez ou que, pour une raison X ou Y, un joueur de l'équipe adverse prend un carton rouge, à la mi-temps, dites à vos joueurs d'être super cool, quoi, d'être super calme, parce que il est évident que quand tu joues, si tu joues à Krasnodar ou à Borisov, peut-être qu'il y a moins de risques, mais quand tu joues en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, les arbitres, automatiquement, même parfois inconsciemment, ils vont avoir tendance à faire de la compensation. Donc, évite de faire
plus,
des conneries. Et alors, quand je me souviens de Toulalan à Munich, quand Ribéry s'était pris un rouge qui fait le con deux fois de suite, ou quand je vois là le joueur de Strasbourg qui griffe le joueur de Francfort, il n'y a pas d'excuse, quoi.
Ouais, il est pas obligé. Il tombe pas dans le piège aussi bêtement, quoi.
Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Je pense que l'aurait a dû le faire comme son
tu
staff.
Dis souvent, il y a pas besoin d'expérience. Non, mais t'as pas besoin d'avoir fait 40 matchs de Coupe d'Europe. Tu le sais parce que tu les as vus à la télé.
Tu
le sais que ça va se passer.
N'importe quel joueur sait qu'il ne doit pas griffer son adversaire et peut-être que c'est la pression. Peut-être que c'est les 40 000 spectateurs qui peuvent changer ta personnalité.
Non, mais c'est pour ça.
Tu le sais comment ça va se passer. Tu le sais qu'ils vont te provoquer. En plus, t'as eu la mi-temps pour un peu cadrer tout le monde, dire les gars, ils vont essayer de nous provoquer, les gars, on sait bien ce qui va se passer, reste calme.
Mais
non.
C'est la réaction, en fait, c'est la réaction de. Ouh là, je suis pas d'accord avec
Claude.
Avec Claude sur le. Bien sûr que Loret et son staff, vu comment ça s'est passé en rentrant au vestiaire, a dû essayer de calmer les ardeurs de tout le monde en disant voilà, il faut retrouver le calme, on est à 11 contre 10, on est certes mené à 0, on est à égalité sur l'ensemble des deux matchs, on va essayer de faire parler de football et de pas tomber dans la provocation parce que
Oui, mais il faut leur dire les gars, pas de conneries, quoi.
Oui, mais tu as beau le dire. Après, tu sais, quand tu joues dans déjà un match de Coupe d'Europe, quand t'es pas habitué à en jouer, comme c'est le cas des Strasbourgeois, plus dans le contexte, avec des joueurs qui sont agressifs en face. Après, ils ont raison de l'être. Plus le fait, tu sais, c'est pas anodin que ça soit Liénard qui pète un câble.
Pourquoi? Ouais, c'est lui sur le corner qui se prend les briquets. Ouais.
Déjà, et puis c'est un leader technique de cette équipe. Comme Thomasson et comme Martin, moi, les milieux de terrain étaient inexistants du côté de Strasbourg.
Alors donc j'allais, on en avait dit du bien. Parce
exactement.
Moi, ils avaient essayé de jouer, de poser le ballon.
Mais ouais, donc quand tu rates des choses et que t'es un joueur technique, et ça, je te parle en connaissance de cause, ouais, et que t'arrives pas à mettre ton jeu en place, tu tombes plus facilement dans la provocation, dans l'excitation, et là, bah, Liénard, il a une mauvaise réaction. Alors, est-ce qu'on peut en vouloir à Loret ou à son staff ou même à lui, oui, on peut lui en vouloir parce que.
Non, mais c'est pas une question de leur en vouloir, c'est d'insister encore plus là-dessus.
Ouais, ouais.
Mais moi, bon, je sais que dans les années 70, Robert Arbin, il disait aux joueurs stéphanois, ne discutez pas avec l'arbitre, ne tombez pas dans la provocation, et en gros, ils tombaient pas dedans, les mecs.
Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, non, mais t'as raison. T'as raison, mais.
Robert Arbin, c'est mon parrain.
Mais vrai de vrai.
Ouais, ouais, vrai de vrai.
C'était au baptême,
suis
c'est lui.
Fier, absolument.
De toute façon, c'est le parrain de tous les stéphanois, là-bas,
pourquoi
non?
Pourquoi c'est ton parrain?
Parce que mon papa connaissait Robert Arbin.
Il
lui a demandé d'être mon parrain. J'en suis très fier. Continuons.
Et au baptême, il a dit un mot ou il est resté muet comme d'hab, le sphinx?
Non, il a fait un mouvement de tête.
Est-ce que t'as déjà parlé?
Ouais, absolument. Ouais,
d'accord. Non, c'est il fait des beaux cadeaux à tes anniversaires, tout ça?
Quelqu'un de charmant, absolument.
Ah, il te fait des cadeaux encore? Ou il a oublié qu'il était ton...
Non, je suis un grand garçon, mais quand j'ai...
Il s'exprime toujours dans le canard local, quand même.
Toi, t'es gâté, toi.
Ouais.
Donc, non, bah je sais plus, là, je suis...
Oui, bah c'est après cette info-là, je comprends.
Ouais, ouais, tu m'as perturbé.
Ça t'a scotché.
Non, mais
en tout cas d'avoir été avec nous. J'avais une information importante, plus importante que celle de mon parrain. Une information pour Daniel.
Ah.
La semaine dernière, tu as levé un sujet extrêmement important.
Oula.
Sur le nom d'Adolphe Hutter.
Ah
que
oui.
Tu trouvais
Adieu.
Non, je me disais, mais
spécial.
Polo était avec nous.
Alors sache qu'il s'est exprimé. Il s'est exprimé par le passé sur son cas et il a expliqué. Vous imaginez bien que je suis pas 100% ravi de mon prénom. On s'en rend pas compte quand on est petit, mais au bout d'un moment, on est associé au passé. Et en fait, Hutter a expliqué que c'est sa grand-mère qui avait convaincu ses parents de lui donner le nom d'un de ses oncles qui était mort tragiquement un petit peu plus tôt et que ses parents avaient cédé. Il a ensuite expliqué que de toute façon sa maman l'appelait Adi et que tout le monde l'appelait Adi. Et finalement,
c'est une super histoire. La question que je posais, c'était juste, même si Polo avait donné une explication, c'est comment des parents pour un enfant né entre, je sais pas, 1960 et 70, en l'occurrence, je crois que c'est 70 lui, comment on vient à donner ce prénom-là, quoi?
Eh bien, tu as la réponse. Ouais, et on remercie Sibnis.
Si tu veux une petite histoire par rapport à ça, moi j'avais. Non, mais ça, c'est important, ça.
Ah, bah oui.
Si tu le dis. Toujours le diminutif d'Adolphe, c'est pas lié à Hutter, c'est tous les Adolphe, on les appelle Adi. C'est comme Uli Ness, c'est Ulrich, ouais. C'est pas Uli.
Ouais.
Donc ça, c'est pour tout le monde. Et la deuxième chose, pour moi, qui est important, c'est que, je le répète, l'Autriche est passée comme une victime du nazisme après 45, c'est les Américains qui ont décidé, ça veut dire que la dénazification n'a pas eu lieu. C'est quelque chose de très important.
Oui, mais en l'occurrence, la grand-mère, elle le fait pas parce qu'elle
c'était
pense
l'histoire personnelle.
Elle pense pas à Hitler.
Le problème, c'est que vous parlez qu'Adolphe,
c'est un oncle. Ah, mais tu veux dire que d'autres Adolphe, ce serait parce que en Autriche, t'as des gens qui trouvent que.
Donc, pour conclure avec une autre anecdote.
Non, ça vous retourne, toi, Daniel. Tu restes sur Adolphe Hitler. Il y a pas que ça. Il y a plein d'Adolphe.
Une amie anglaise et ils sont allés devant la justice. Elle s'appelle Goebbels maintenant, parce que s'appeler Goebbels, c'est pas génial, quoi.
Donc, comme le joueur formé à Lyon, le petit jeune.
Goebbels. Enfin, je ne
l'écris pas exactement comme ça.
Goebbels. Mais... Goebbels.
Mais quand on lit son nom, on y pense tout le temps.
Mais c'est histoire d'histoire. Bah oui, c'est les noms, ça te marque une vie, hein.
Messieurs, transition toute trouvée avec cette intervention de Fred Hermel. Vous l'avez compris, on ne va plus parler uniquement de Francfort, mais bel et bien de toute l'Europe avec le tirage au sort de la Ligue des Champions.
Moi, je veux que chacun annonce combien sur 4 qu'il en passe en 8e.
Ah, j'aime bien ce jeu-là. Ah.
Alors allons-y.
Sur tous les groupes.
Alors on commence avec Simone.
Bien sûr.
T'as quatre équipes engagées.
Combien il y en a qui passent en huitième?
Tu fais un 4 sur 4, un 2 sur 4.
Simone, 4 équipes italiennes, combien passent en huitième?
3 sur 4.
Hein?
3 sur 4.
Tu vises un 3 sur 4.
Mais 3 sur 4, c'est-à-dire. Donc l'Inter fait l'exploit du chapeau 3 de se qualifier.
J'ai l'impression que.
Parce que l'Atalanta, ça m'étonnerait qu'ils sortent
dehors. J'ai l'impression que l'Inter, c'est la seule qui ne sort pas.
L'Atalanta, elle peut
L'Atalanta
peut
va dire que
l'Inter sortirait
de l'Atalanta.
Alors, l'Atalanta Bergame sera le groupe C, Manchester City, Shakhtar Donetsk et Dynamo Zagreb. Ah,
c'est possible.
Ça peut passer.
Ouais, c'est pas complètement finir.
Tu peux même viser le 4 sur 4, hein.
Attention, attention, Simone. Il faut regarder le calendrier parce que si le dernier match de l'Atalanta, par exemple, c'est à domicile.
C'est ça, c'est plus ça.
City déjà qualifié. Regarde le calendrier.
Ouais, c'est ça, c'est important.
Moi, j'ai vu le calendrier et les. La bonne nouvelle pour l'Inter, c'est que les derniers matchs, c'est à domicile face au Barcelone. Et on a vu des cadeaux de Barcelone.
Donc, voilà, si Barcelone est qualifié, c'est possible.
Donc, peut-être,
mais au mieux, t'as un nul. Hein, t'as pas le cadeau complet de la victoire. Faut pas non plus dire de.
Ça dépend de plein de choses. On sait pas, mais. Tu peux.
Donc, 3 sur 4. Allez, bon, c'est bon. T'as eu son temps de parole. 3 sur 4.
L'Inter, l'année dernière, il devait passer en 8e.
Merci, merci. On va pas passer 3 heures sur tes clubs italiens.
Polo. Alors, attendez, juste avant de donner la parole à Polo, on va donner la parole à Julien Laurence qui nous a rejoint également. Toute la famille des drôles de dames est réunie. Salut, Julien.
Salut à tous.
Alors, Julien, combien.
La deuxième année est souvent plus dure.
De tes 4 clubs anglais passeront en 8e de finale.
Ah, moi, je fais un 4 sur 4, hein. Daniel a raison. Tottenham, avec le Bayern. City, tranquille. Ils ont toujours de la chance au tirage, de toute façon. Ou Liverpool avec Napoli. Et puis Chelsea, après, dans leur groupe, dans le dernier
Chelsea
groupe.
Chelsea aussi, c'est 4 4, Ajax, Valence et Lille.
Et moi, je te dis que Chelsea, ils vont l'avoir.
Non, moi, je suis d'accord avec Jérôme. Chelsea, Lille. C'est une inconnue. Ouais. C'est un groupe hyper équilibré, les 4.
Non, mais Chelsea est une inconnue. Tottenham a du mal à repartir pour l'instant. Comment ils seront, là, dans quelques temps?
Olympiakos, c'est étoile rouge de Belgrade, Jérôme.
Quand même, quoi.
Bon, c'est vrai. C'est vrai. Autant pour moi. J'ai rien dit. Ils vont passer.
Polo Breitner, sur les 4 clubs allemands, combien passeront en 8e?
La réponse de Normand, ce que je suis, au moins 2.
Au moins 2, alors le Bayern, Tottenham, Olympiakos, Étoile Rouge. Et Leipzig.
Et Leipzig. Je peux viser le 4 sur 4.
Non, mais c'est vrai qu'à l'arrivée, Leipzig dans le chapeau 4.
Leipzig avec Lyon ou sans Lyon?
Je pense.
Non, mais attends, Daniel, t'imagines que le groupe G, donc le groupe de Leipzig et de Lyon,
il est ouvert, celui-là.
Franchement, quand tu vois chapeau 1 Zénith, chapeau 2 Benfica, ils s'en sortent très bien. Lyon et Leipzig s'en sortent super bien.
Ce
donc,
groupe-là, franchement, c'est un bistrot. Hein. Donc,
c'est pour boire
tranquille.
Hein. C'est un cadeau aussi du ciel.
Les quatre équipes doivent se dire que c'est possible.
C'est un cadeau.
Après, Dortmund, c'est dans le groupe le plus dur.
Évidemment, Leverkusen est sans doute celle qui a le moins de chances de passer. Sauf que ça reste quand même Leverkusen qui a une expérience européenne assez intéressante, qui est souvent
c'est
en huitième.
C'est quoi Bayard, Rodi? Bayard.
Et Atletico, Juve.
C'est dur. Ouais. C'est dur. Maintenant,
je pense que ce sera plus difficile.
J'ai du mal à l'envisager, pardonne-moi.
Parce que la différence entre
Atletico et Locomotive. On va, messieurs, on va donner la parole à Fred Hermel avant une information what the fuck qui va vous mettre sur le cul. Le happening est fait. Fred, sur 4 clubs espagnols, combien passent en 8e?
Alors, je vais m'expliquer. 3 sûrs, c'est-à-dire le Real, l'Atlético et le Barça. Valence, c'est une inconnue. C'est une inconnue pour une raison très simple, c'est que ça marchait très bien jusqu'à ce que le propriétaire de Singapour ait décidé de reprendre les choses en main et donc de faire n'importe quoi. S'ils vendent Rodrigo Moreno, c'est pas sûr que Valence passe. S'il n'arrive pas à vendre Rodrigo Moreno, comme ne le veut pas l'entraîneur, ça risque de passer. Ça va dépendre en fait de la mauvaise influence que peut avoir le propriétaire de Singapour sur une équipe qui, le directeur général, qui est celui qui avait relancé cette équipe, qui avait mis un petit peu de bon sens, tu vois, dans la gestion footballistique d'un club qui était géré par des gens qui connaissaient rien au football. Voilà, l'entraîneur conserve son pouvoir, si le directeur général conserve son pouvoir, si Rodrigo Moreno reste, parce que c'est quand même leur attaquant numéro 1, Valence a une chance d'être le 4e qualifié espagnol, mais il y a cet inconnu-là au niveau de la gestion.
T'es en train de dire qu'en fait, quand ils ont pris les frères Neville, c'est des mecs qui connaissaient rien au football quand ils les ont pris. Pourtant, c'est deux bons coachs.
Ah oui, ils sont
montrés.
Oui, c'était surtout des mecs avec qui ils étaient en business. Non, mais là, ça marchait. Valence fait quand même sort d'une saison magnifique.
Ah oui, l'année dernière,
ils sont 4e de la Liga.
Ouais.
Ils gagnent la Coupe du Roi face au Barça.
Ouais.
Enfin, je veux dire, c'est une belle saison.
Oui, non, exactement.
Mais là, je dis, il y a trop d'influences négatives venant de Singapour pour pouvoir affirmer que Valence va passer.
Et nous, alors, tu nous as demandé.
Justement, je vais vous poser la question, Daniel, Jérôme, 3 clubs français, combien iront en 8e? Je vous rappelle les groupes, tout de même, le Paris Saint-Germain dans le groupe A avec le Real Madrid, Bruges et Galatasaray. Dans le groupe G, Lyon jouera face à Leipzig, le Benfica et le Zénith. Et dans le groupe H, pour Lille, du Lourdes, Chelsea, Ajax, Valence.
Écoute, un franchement, sûr, Lyon, ce serait terrible vu le coup de bol qu'ils ont au tirage, ouais, que ça se passe pas bien.
Parce que maintenant, Lyon, excuse-moi, Lyon était chapeau 3.
Ouais,
chapeau 3.
Chapeau 3, voir un groupe comme ça, c'est gâteau, quoi. C'est
Inter, un chapeau 3, c'est trouvé par ça et Dortmund.
Tu t'assieds et tu manges, quoi. Dans un groupe comme ça, Lyon doit sortir. Maintenant, ces dernières années, Lyon a, l'année dernière, ils ont pas été très à l'aise. Ils sont sortis dans un groupe qui était également à leur portée. Je pense que Lyon, je mise dessus, ok. Et Lille, je sais pas ce que peut donner Lille en Ligue des Champions, mais pour un chapeau 4,
c'est vachement
avoir
bien
ce groupe-là,
c'est pas si mal.
Tu peux avoir pire en tant mais que chapeau
parce
4.
Que Daniel,
hein,
parce que c'est exactement ce qu'on disait. Chelsea, il y a des inconnus. Valence, il y a des inconnus. Voilà, donc Lille, ouais, peut tirer. Lille n'est pas
une équipe sûre. Moi, si j'ai bien compris, t'es plutôt d'accord avec Daniel.
Moi, les deux. Moi, je vois, je
Paris
vois
Lyon
deux
passer.
Paris-Lyon passer.
Est-ce que Lille doit viser l'Europa League?
Écoute, franchement, l'Europa League, bien sûr. Ils vont marquer des points dans ce groupe. Après, de là à sortir du groupe quand t'es chapeau 4, ça doit pas arriver souvent. Donc même avec un groupe qui paraît plus ouvert,
me demande si,
mais bon, Monaco, c'est quand même
quand Monaco sort à l'époque Bayer Leverkusen machin et qui vont
chapeau 3
année, ils sont pas chapeau 4, 4 quand ils vont quand ils perdent contre la Juve et pas quand ils perdent
2017,
ouais.
Ah ouais, ça faisait un bout de temps qu'il n'y avait pas eu de la Coupe d'Europe, peut-être, c'est peut-être pour ça aussi.
Je me souviens, Monaco, chapeau 4, qui arrive premier de son groupe.
Non, mais donc ça peut arriver de temps en temps. Après,
groupe homogène avec
franchement, d'imaginer Lille premier de son groupe avec l'Ajax, Chelsea et Valence, non, je vais pas aller jusqu'à là. Après, ils peuvent être surprenants, mais c'est pareil. J'espère pas retrouver ce qu'on a vu avec Strasbourg ce soir, parce que c'est pas du tout le même niveau. Mais quand même, on parle de Ligue des Champions avec des joueurs qui sont inexpérimentés pour la plupart. Est-ce qu'ils seront capables d'évoluer à un très bon niveau, sachant que Lille a quand même perdu trois joueurs très importants de son équipe.
Ouais, mais de l'autre côté, on verra. T'as Valence qui paraît-il va pas fort.
Oui, mais bon,
t'as l'Ajax qui doit digérer sa saison et les départs.
Bon, on est avec Jamel, qui est supporter du Paris Saint-Germain, qui nous a appelé au 32-16. Bonsoir, Jamel.
Bonsoir.
Alors, Jamel, est-ce que t'es rassuré par le groupe du Paris Saint-Germain?
Assez rassuré, oui, mais avec toutes ces blessures qui se sont enchaînées, on va un petit peu avoir du mal puisqu'on va se mettre directement dans le bain contre le Real Madrid. Malgré la petite pénurie offensive, on va se retrouver avec un duel de titans Choupo-Moting-Ramos, ça va être bien drôle. Ça va pas envoyer du rêve. Mais je pense que toutes ces blessures et le tirage, en l'occurrence, contre le Real Madrid, ça va assez influencer la dernière ligne droite du mercato parisien. C'est que mon avis.
Effectivement, et le mercato parisien, on va y revenir dans quelques instants.
Le 18, il faut le préciser.
C'est ça. Voilà. Le 18, PSG Real, et ensuite 1er octobre, Galatasaray.
Mais c'était une demande de la part du club.
Et le Real PSG aura lieu quand? C'est le 20, premier
le 26 novembre.
26 novembre.
Avant-dernier match.
Non, mais ça veut dire, prenons le premier match où c'est Paris à domicile, c'est sans Mbappé.
Sans Cavani,
sans Neymar.
Ouais.
Quoi qu'il arrive.
Sans Neymar.
Quoi qu'il arrive, sans Neymar.
Non, mais c'est sûr.
Et du côté du Real Madrid, il y a des blessés, mais Hazard sera de retour. Parmi l'équipe type.
De toute façon, sur ce match, le premier match, bien sûr que le Real va être dans les meilleures conditions que le Paris Saint-Germain.
C'est clair.
Même si c'est un match à domicile.
Tu restes quand même.
Te couper, Jérôme, je ne sais pas si c'est les meilleures conditions quand tu vois le début de championnat de.
Oui.
On dit les meilleures conditions. Non, mais c'est au nombre de blessés.
Moi,
j'ai trois attaquants du PSG qui ne sont pas là. Donc,
non, mais je suis d'accord avec toi sur l'analyse. Le Real est pas flamboyant. Bien sûr que ils ont le temps d'arriver à un meilleur niveau. Mais le PSG, moi, je te parle juste d'un point de vue collectif. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, sans regarder l'état de forme des joueurs, est-ce que quand tu regardes le Paris Saint-Germain, le groupe, le club, comment il fonctionne, et le club du Real Madrid, comment il fonctionne, franchement, avant le coup, je me dis que le Real, avec les absents, aura un avantage sur ce match aller. Après, sur ce premier match. Après, la suite du groupe,
il y aura le plein contre les deux autres adversaires.
Jamel, juste une dernière question. Tu es 100% convaincu que le PSG sort de son groupe?
120%, oui.
120%.
Le PSG sort de son groupe, c'est...
Attends, ça va. Bruges et Galatasaray. Galatasaray
par la fenêtre à Noël.
Mais bien sûr, les deux, la double confrontation PSG Real, c'est pour définir la première place.
Exactement, quoi. Voilà, c'est tout.
Si les deux.
Il y a Galatasaray, c'est plus Galatasaray. Il y a quelques années.
Et puis après, il y a cette légende sur les. Allez, jouer en Turquie, ok. Mais les joueurs, Jérôme,
c'est bon.
Vous avez l'habitude, quoi. Les mecs à ce niveau-là.
Ouais, non.
Messieurs, merci en tout cas Jamel de nous avoir appelé. On va également peut-être prendre Hicham rapidement. Hicham, t'es supporter lyonnais, pour toi c'est du velours.
Je dirais pas velours, mais comme je l'ai dit, moi ça va être un gros kiff dans le sens où il y a trois équipes qui se valent pour moi, même si Leipzig ils sont au-dessus, ils ont des joueurs de top niveau, surtout avec leur attaquant allemand qui est une fusée. Par contre, ça va être des matchs ouverts. Benfica, ça joue. Zenit, ils ont fait un recrutement avec Malcolm, ça va peut-être jouer. Et ça va faire des beaux matchs. Mmh. Donc après, il y a aussi, on vous en parlait pas souvent, je trouve, mais le plaisir de voir des beaux matchs en Ligue des Champions. Et quand on voit la Ligue des Champions monter et on s'emballe, on voit des super scores, bah c'est ce que j'espère voir, tout simplement. Voilà.
C'est ce qu'on te souhaite en tout cas
aussi,
de kiffer.
On adore la Ligue des Champions.
L'Olympique.
Franchement, Lyon, en plus de ça, je sais pas si je ferai tous les matchs de Lyon en commentaire, mais ce qui est sûr, c'est que les stades à l'extérieur, c'est magnifique, quoi, de jouer dans ces ambiances-là.
Bien sûr.
Tu prends à Lisbonne, à Benfica, au Zénith, même au Zénith.
Le match du Zénith, c'est quelle date aussi, par rapport au froid? Parce que ça aussi c'est important.
Ouais, bah, c'est important allés, surtout que tu veux de me le dire maintenant pour voir si je décide d'y aller ou si j'envoie mes remplaçants en fait.
Lyon,
ils sont allés en Ukraine, il neigeait à mort.
C'était le 12 décembre. Ils ont gagné 1-0, ils se sont qualifiés.
Non mais je veux dire, mais tu sais bien que les conditions, ça peut à un moment ça peut jouer quoi.
Messieurs, on va marquer une petite pause, on va revenir pour vous parler mercato et attendez bien, teasing énorme, aucune réaction, ça revient. On revient juste après la pub pour en parler. Keylor Navas serait tout proche du Paris Saint-Germain.
Oui, ça on sait, c'est.
Et Alphonse Areola ferait le chemin inverse. Oui. À tout de suite.
Areola va au Real.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Timothée Mémon.
23h26 de retour dans l'after pour la suite de cette émission. On vous a parlé du tirage au sort. On vous rappelle l'information de la soirée, c'est l'élimination de Strasbourg qui s'est inclinée 3-0 face à l'Eintracht Francfort. 3-1 sur les deux matchs. Strasbourg est éliminé. Demain aura lieu le tirage au sort des phases de groupe de l'Europa League qui concerneront donc Rennes et Saint-Etienne. On a parlé du tirage au sort des clubs français en Ligue des Champions. Je vous le rappelle.
Et un truc qu'on sait pas, c'est est-ce que Eintracht ça veut dire un truc ou pas du tout?
C'est vraiment la Concorde.
Hein, la Concorde de Francfort. Ah, voilà. Oh. Donc dans le groupe G, Lyon affrontera le Zénith Saint-Pétersbourg, Benfica et Leipzig. Dans le groupe H,
Leipzig.
Voilà. Eh oui, mais t'as pas fait
latin.
Ça, on l'a vu. Et on l'entend. Et surtout.
Lille affrontera Chelsea, l'Ajax et Valence. Et puis le Paris Saint-Germain, à condition que je retrouve ma fiche, mais vous l'avez de tête, messieurs, parce que vous êtes très très forts. Donc ce sera le Real Madrid, Bruges et Galatasaray pour la formation du Paris Saint-Germain. On va à présent revenir sur cette information étourdissante que nous a glané Saber Desfarges de la rédaction RMC Sport. On va parler donc du mercato.
Je te dois 120 000 francs. La frite, elle est à 8 francs. La saucisse, à 12. Avec un coca, ça fait 30 francs. Écoute, tu peux venir déjeuner chez moi quand tu veux. Et le café, c'est moi qui l'offre. Je vais pas me taper pour 12 patates de merguez. Moi, ce que je fais, c'est mon pognon.
Voilà. Donc après ce
sujet. Moi, j'ai toujours dit que je préférais 30 000.
30 000
non, ouais, bah, un historique de l'after.
Mais celui-là est pas mal. Ça joue un peu.
Très, très
il reviendra
bien,
à l'autre.
Ça va, on va varier les deux.
Ouais,
on va varier les deux.
Vas-y, alors annonce-nous ce que tu...
Donc, Keylor Navas est tout proche du Paris Saint-Germain, ça on avait entendu parler depuis un petit moment. Le gardien du Real Madrid pourrait s'engager. Le PSG a accéléré les négociations avec le Real pour Keylor Navas. Mais, dans l'autre sens, c'est Alphonse Areola qui pourrait faire le chemin inverse. Il pourrait
Attends, je te coupe. Je demande un jingle, s'il vous plaît, en régie.
Jingle pigeon.
Ah ouais, pigeon. Pigeon.
Oiseau à la grise rose. Tu es vraiment le plus agile, c'est un couple.
Sous mon regard, tu te dérobes.
Fred, c'est pour toi.
Non mais attendez, je viens de recevoir un message de Madrid.
Ouais.
Qui me dit c'est fait Areola.
Voilà.
Et ben
moi,
voilà.
Moi j'hallucine.
Voilà, les informations se confirment en direct. Bon. Donc Alphonse Areola, il ne comptait pas.
Je me lève, je t'embrasse.
Alors vu que c'est pas très radiophonique, Jérôme Rotten vient de se lever et de claquer une belle bise.
La personne qui m'écrit, c'est source. Ah, ça me paraît.
C'est du métro armé.
C'est
un prêt visiblement.
C'est alors, ce qui se passe, c'est que Alphonse Areola ne comptait pas quitter le Paris Saint-Germain cet été, mais le champion du monde s'est un peu fait une raison, poussé vers la sortie. Le joueur est au courant que son club formateur est à la recherche d'un vrai numéro 1. Il pourrait donc finalement quitter.
Et qui sera le 2 du PSG, Boubka?
Bah, alors, ce serait, non, excusez-moi, mais ce serait une, ce que me demande mon contact, me dit, voilà, mais est-ce que on est dans un prêt ou un, oui. une vente?
Moi, on me dit plus un prêt, moi.
Plus une vente. Un prêt avec option d'achat.
Non, mais, l'option, elle est pas très chère. On vous le fait à 60 millions. Franchement, écoute, enfin, c'est et c'est cadeau, hein.
60, non, mais, alors moi, ravi pour le Paris Saint-Germain. Pour moi. Bravo, mais le ouais. PSG réalise, pour moi, l'un des meilleurs coups du mercato. Navas est un gardien qui a été décisif dans la conquête de 3 Ligues des Champions successives. Rappelle-toi, mon cher Simeone.
Simeone,
c'est mon voisin.
Je sais qu'est-ce que tu m'as dit.
La finale avec Buffon contre la Juve.
Bien sûr.
Le gardien décisif, c'est à la 30e minute, une frappe de Pjanic. Avec Navas qui sort une main, mais d'un extraordinaire et ça change le destin.
Navas à un moment une réputation j'entendais dire ouais c'est pas un gardien si fort que ça. Moi de la première fois où je l'ai vu quelle coupe du monde c'était avec le Costa Rica
2014 à la Costa Rica 2014. Avait fait un chose
ouais. J'ai toujours trouvé ce gardien excellent.
Non mais de toute façon tu gagnes même si tu gagnes pas 3 Ligues des Champions par hasard. Voilà, c'est tout. Il a joué en plus, il a été déterminant, mais même sans être déterminant, s'il n'avait pas fait des arrêts incroyables, il a quand même 3 Ligues des Champions. Donc cette expérience-là, elle est pas,
mais on
c'est
est
pas négligé.
Courtois, un moment dans les pattes, on avait considéré.
Qui sera numéro 1 au Real?
Non, mais c'est Courtois.
C'est Courtois. Non,
mais c'est la raison pour laquelle.
Ils ont pris Areola pour être numéro 1.
Non, on est con, mais il y a des limites quand même. Non, mais c'est-à-dire que non. En fait, le Zidane a décidé aussi le club que Courtois, la recrue de la saison dernière à 35 millions, devait être le numéro 1. Zizou aimait garder les deux gardiens, mais c'est pas possible. Oui, oui. Navas veut partir. Donc, et là, on va se retrouver avec Areola numéro 2. Après, il a joué à Villarreal où il était plutôt après. Il a plutôt une bonne image en Espagne. Hein.
Mais il avait au départ une cote.
Il avait une cote.
Villarreal, c'est le gars qui devait s'imposer.
Mais tu veux que je te dise, franchement, là comme ça, on en rigole. Et ce qu'il fait à Paris depuis quelques mois et quelques semaines maintenant, je pense qu'il s'est mis trop dans le confort en étant le numéro 1 avec une revalorisation salariale énorme, non, Fred. Voilà. Non, mais et je pense que c'est pas le tort de quand je dis ça, c'est que ça peut arriver à beaucoup de personnes quand t'as une telle revalorisation salariale, peut-être qu'il s'est pris pour un autre. Il a été champion du monde en étant un gardien, le troisième gardien,
bien sûr.
Et la remise en question, elle n'existe pas. Et là, le fait d'aller au Real, d'être numéro 2
au quotidien.
Mais non, mais là.
Oui, ça va le. Ça
exactement.
Le...
Peut-être.
Après, alors moi, comme moi, je suis un peu tordu dans ma tête. On sait que le Real Madrid, notamment Florentino Pérez, a un objectif qui est Kylian Mbappé, et il veut que ça se fasse un jour, mais pas avec une OPA hostile.
D'accord.
Dans le cadre de très bonnes relations avec le PSG.
Donc peut-être que.
Là aussi, c'est.
Si, alors, on en a un autre. Là, on parlait du package. On en a un autre, Kurzawa, si tu veux nous l'échanger avec Marcelo.
Non, c'est pas prévu.
Avec Marcelo. Marcelo de Fernand Mendy.
Ça va être
dans les rouages
pour Mbappé.
Fred, ça serait pas mal. Ça faciliterait les discussions.
Et c'était quelqu'un avec qui les relations étaient très froides.
Ah, exactement.
Oui. Ça s'est réchauffé cet été grâce à Pogba qui a vraiment manifesté son désir de venir au Real Madrid. Alors, attends, je t'écoute parce que moi je suis tordu. Donc, ça peut aider à l'arrivée de Pogba à Madrid.
Je te pose la question. Et tu m'avais dit que.
Et là, Pogba à Madrid, c'est pas United aussi quand même qui doit
venir. Tu le savais très bien. Et ça s'est réchauffé parce que Zidane parlait directement avec Pogba.
Ouais.
Messieurs, on est avec Victor qui est supporter du Paris Saint-Germain. Bonsoir Victor.
Bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe.
Salut Victor.
Qu'est-ce que tu penses de cette annonce là, peu ou prou, un échange poste pour poste, Keylor Navas, Alphonse Areola?
Bah pour le coup, moi je trouve que c'est un très bon coup. Comme vous le disiez, il a quand même gagné 3 Ligues des Champions.
Ouais.
Et on voit quand même que depuis que c'est Courtois dans les buts, sans remettre Courtois en cause, il a quand même pris beaucoup plus de buts que Keylor Navas sur au moins une année, déjà de base. Et ensuite, pour Areola, moi, je viens un peu avec vous en disant que c'est vrai qu'il a eu un statut assez spécial, du genre, il n'a jamais vraiment eu de concurrence, même avec l'arrivée de Buffon, où c'était vraiment une année un peu bizarre, où lui, on avait plus l'impression qu'il venait là en club de vacances plutôt qu'autre chose.
C'est pas exactement ça. Buffon est venu pour jouer la Ligue des Champions, n'oublie pas. Hein.
Exactement, c'est ce qu'il a
Buffon,
fait.
Buffon est venu pour jouer la Ligue des Champions. C'est Buffon qui a joué la Ligue des Champions.
Moment, tous les matchs, il est les matchs importants, titulaire Buffon.
Mais oui, c'est ça. C'est
son et il a perdu toute la crédibilité.
Exactement. Buffon joue le match. Buffon joue l'aller-retour et notamment le match en catastrophe.
Alors, il joue les deux matchs, certes, mais après, c'est vrai que c'est un peu, pour son image, ça n'a pas été terrible. On est passé un peu d'une légende.
Ah, ça, c'est sûr. Il s'est déchiré, même.
Mais tu sais, on en revient toujours au même. Et c'est pour ça qu'il a aussi des circonstances atténuantes à Areola. Et les gardiens, pour souvent avoir parlé avec eux, et même encore aujourd'hui, c'est tellement un poste spécifique que la mode, ça a été lancé par Barcelone une année où Barcelone avait une équipe de malades et il tournait entre gardien qui jouait la Ligue des Champions et l'autre qui jouait le championnat, Fred.
Le Real, c'était le cas aussi.
Le Real aussi.
Avec Casillas qui jouait la Ligue des Champions.
Exactement.
Et Diego Lopez qui jouait la Ligue 1.
Il y a eu ça. Mais bon, tout le temps, on parle d'équipe incroyable. Et là, cette mode, on a l'impression qu'elle a voulu être installée au Paris Saint-Germain. Tu vois. On ne sait pas qui est le numéro 1 entre Trapp et Areola. Et puis après, entre Buffon et Areola, il y a eu le jeu de poker menteur. Alors qu'on savait très bien les accords qu'il y avait avec Buffon, mais il ne voulait pas qu'on contrarié à Areola. Et lui, à l'arrivée, il se mettait à plus jouer les grands matchs à Areola. Et l'année dernière, et c'est ce que je disais à Polo là, pendant la pub, c'est que l'année dernière, pourquoi il le prolonge à ce tarif-là, Areola? Parce que les dirigeants parisiens, ils ont perdu Rabiot, ils sont passés un petit peu pour des cons quand même par rapport à ce qui s'est passé et tout ça. Et ben ils se sont dit, attends, si on prolonge pas, on tombe pas d'accord avec Areola, on va le perdre aussi de la même façon. Donc on veut garder la face par rapport aux supporters du Paris Saint-Germain. Donc on va accepter ces conditions. Et donc ils l'ont fait signer à quasiment 700 000 par mois. Alors, bah, écoute-moi, pour un tel gardien, c'est pas possible.
Tu te souviens quand Matuidi avait prolongé, toujours avec Areola, à 4 mois de la fin de son contrat. Donc, ils ont été amenés à arriver dans une situation où tu étais obligé à prolonger un certain chiffre.
Mais bien sûr.
Donc, il y a aussi quelqu'un derrière qui travaille pour arriver à certaines situations.
Ah ben oui. Non, mais je suis d'accord avec toi.
Les dirigeants sont capables de comprendre quand tu ne dois pas arriver à certaines situations. Heureusement, aujourd'hui, ils ne sont plus là, certains dirigeants.
Après, pour parler un petit peu de Keylor Navas, c'est un excellent gardien qui gagne à peu près un bon 4 millions d'euros net par an. Là aussi, l'argent, parce que le PSG lui offrirait un salaire qui pourrait être de 6 ou 7 millions.
Mais oui.
Bien supérieur. Donc on peut comprendre ça aussi. Mais sincèrement,
mais de toute façon,
moi
Fred,
je pense que c'est un coût énorme du PSG sur le marché.
Fred,
je ne vois pas qui... sur le marché, franchement, il y a deux gardiens qui sont au-dessus de tout le monde. Ils jouent tous les dans l'Espagne, c'est Ter Stegen et Oblak.
Je vais finir par prendre ta main dans la gueule.
Ouais, excuse-moi.
Ça va pas tarder.
Non, mais ça serait une caresse. mais qu'il en avance. J'insiste vraiment parce que moi je le vois à l'entraînement, je le vois en match, un exemple de la valeur de Navas. En janvier 2018, quand Florentino Pérez a un accord avec Kepa Arrizabalaga qui finalement partira plus tard à Chelsea. Zidane met son veto
pour garder Navas.
Vous imaginez le niveau de ce gardien. Donc bravo au PSG, c'est vraiment
c'est un super
très beaucoup du mercato.
Exactement.
Sans aucun doute.
De toute façon, il y avait pas trop le choix déjà parce que les autres ils sont bien en place dans leur club et
Donnarumma,
quasiment...
c'est pas aussi fort que c'est pas la sécurité.
Non, mais Donnarumma c'est je dis pas que c'est comme Areola mais c'est un joueur Donnarumma, il doit progresser dans plein de secteurs encore Donnarumma.
Il a 31, 32, enfin il est jeune encore. Enfin pour un gardien, il est
non, il a 32, c'est ça, 32 ans.
Il a moins 11 ans en plus que Donnarumma. Donc il y a une expérience derrière qui
fait qu'il y a deux mondes différents. Il a été élu meilleur gardien du mondial au Brésil, 3 Ligue des Champions.
Non, puis Donnarumma, on a beau mettre des trucs, pour l'instant il n'y a pas de référence parce qu'il ne joue pas la Ligue des Champions qu'il est dans un club qui stagne. Donc,
non, mais lui c'est un grand espoir, l'autre c'est quelqu'un qui a gagné 3 Ligue des Champions. Donc,
et en plus Navas au quotidien c'est quelqu'un qui ne pose pas de problème, c'est quelqu'un de très très religieux, c'est quelqu'un qui est très... qui a une vie très très rangée, etc.
Il peut pas sortir en boîte, c'est ça que tu veux chercher.
Il
peut pas aller dans le groupe Draxler.
Faudra vraiment, ça sera compliqué. Donc
ils vont à la messe ensemble, c'est ça.
Voilà. C'est ça. Donc là, d'accord, on se retrouve avec un gardien, mais idéal pour les aspirations du PSG.
À partir
du moment où tu veux passer un cap en Ligue des Champions, ben il te faut un gardien en Ligue des Champions. Et sans aucun doute, Keylor Navas est un gardien en Ligue des Champions.
Daniel Riolo, il était obligé de placer le Verratti dans le, alors qu'il a rien demandé.
C'est pas un Draxler.
Ouais, mais tu vois.
Ah, est-ce que Draxler
Draxler est passé devant à Marco
Draxler Draxler presque plus les établissements nocturnes maintenant.
Ah, ça je sais pas.
Victor, supporter du Paris Saint-Germain, t'es encore avec nous. Petite transition.
Ouais,
est-ce que tu as envie de voir Neymar rester?
Ah non, c'est pas possible. Ce joueur-là, c'est pas possible. Pour moi, le meilleur mercato du PSG, ce serait que Neymar parte. et il aurait même fallu accepter les offres avec Coutinho, Rakitic et les 90 patates dès le début. Dès le début, il aurait fallu accepter ça.
Merci beaucoup, Victor, d'avoir été avec nous. On te souhaite une belle saison avec...
Oui. Juste, est-ce que c'est possible de passer un petit bonjour à Jojo, le petit supporter de l'AS Saint-Etienne, mon petit footix à moi.
Très bien, on l'embrasse.
Voilà.
On embrasse de toute façon tous les supporters. Ah bah bien sûr, tous les supporters de l'AS Saint-Etienne, on les embrasse tendrement.
On aurait dû lui demander si son parrain, c'était Robert Arvin aussi. C'est possible. Hein. Ah oui,
Vous l'avez compris, la transition est toute trouvée sur le cas Neymar. Vous le savez, on disait que
Paulo, t'as l'air de t'agiter. Tu veux dire quoi
par rapport à Draxler? Parce que quand je me rappelle quand il a signé au PSG, Daniel m'envoie un SMS. Il me dit qu'est-ce qu'on fait avec Draxler? Et je lui dis fais-en un homme. Draxler, c'est ça, c'est pas un homme.
Ah d'accord. Je me souvenais pas du tout de cette
chose. Je me suis dit, il a eu le problème en Allemagne, c'est-à-dire que c'est toujours l'éternel espoir, etc.
Éternel.
Wolfsburg, ensuite PSG, et puis finalement, il est où?
Et en fait,
il est heureux comme tout d'être remplaçant au PSG.
Il va finir à la Roma.
On avait ce problème-là avec le jeune Jérôme Rotten, puis maintenant il a son émission à son nom, quoi. Tu vois, il est devenu un homme.
Ah ouais. On a fait bon, un homme, c'est un peu différent.
On le savait d'entrée quand même.
Alors juste,
tu vois les pics d'audience dès que je suis arrivé.
Messieurs, Daniel, Jérôme, votre avis sur le cas Neymar? On disait que les choses avançaient et puis le Paris Saint-Germain fait un démenti. Oh
là, tu me dis, j'ai plus d'avis. On a un avis 10 fois par jour sur Neymar. Alors au bout d'un moment, je sais pas pourquoi on a l'impression qu'ils veulent attendre le 2 septembre. Je ne sais pas pour quelle raison. Ouais. Aujourd'hui, ils ont toutes les données en main. Ouais, soit on se met d'accord une fois, soit on ne va pas se mettre d'accord. C'est pas parce que les jours passent que tu vas reculer et que tu vas finir par te mettre d'accord.
J'en suis à une conclusion, aussi avec mon esprit tordu de Ch'tine Madrid, car j'ai l'impression que le PSG n'a pas vraiment envie de vendre Neymar et que le Barça n'a pas forcément envie de faire venir Neymar.
Bah, c'est grave alors. Franchement,
Fred, t'as peut-être raison.
Mais si c'est le cas, moi je le disais sur les dirigeants parisiens, je parle pas de Barcelone, parce que Barcelone ils sont entrés dans la danse, parce que l'autre il veut partir, parce qu'il a fait des déclarations. Barcelone, si c'est le cas, bah écoute, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, si c'est une revanche sur le Paris Saint-Germain par rapport à ce qui s'est passé à l'époque, c'est possible. Mais pour le PSG, si c'est ça. Mais alors pourquoi il y a encore 2-3 mois t'as ouvert la porte? T'aurais dû lui mettre un ultimatum en disant voilà fin juillet si t'as une offre qui correspond à nos attentes tu pars, sinon tu restes et tu joueras, parce que là c'est du foutage de gueule encore plus si c'est le cas, en se disant nous on a envie de le garder dans tous les cas et au 2 septembre il va rejouer, pourquoi il a pas joué avant? Donc ça veut dire que il a raté les 4-5 premiers matchs de championnat, il va rater les 3 matchs de Champions League, ça veut dire que tu vas payer un joueur 37 millions d'euros pour faire 25 matchs à peu près, parce que 25 matchs, parce que je compte les matchs où il va être blessé, hein, parce qu'il va y en avoir une dizaine. Donc ça va faire 25 matchs, ça va faire 1 million 2 ou 3 par match joué. Non mais au bout d'un moment, faut pas déconner.
Après,
quand même.
Faut voir qui vient dans le package. Et bon, Dembélé, ça a l'air hors de question, mais à chaque fois que je lis que le PSG insiste ou que Tuchel appelle Dembélé, j'ai mis sont complètement malades.
Moi, je te dis juste
pareil.
Après tout ce qu'on a rajouté depuis 2 saisons,
un autre qui veut pas jouer pour toi.
Ouais, et qui en plus est peut-être encore plus casse-dur.
Là, juste pour finir,
là ce serait incompréhensible.
Le plus dramatique. Le plus dramatique pour le PSG sur cette affaire Neymar, c'est que ça dure et que même si ça doit se faire là dans les prochains jours, comment tu vas te retourner derrière pour faire des joueurs? Parce que si tu perds Neymar, il faut absolument.
Il y en a qui sont en stand-by. Hein. Ouais, Dybala, on a l'impression qu'il attend que ça.
Ouais, mais la Juve. Imagine la Juve Dybala,
Mondzukic. Ils disent
dans 3 jours, tu vends Neymar. Dans 3 jours, tu vends Neymar à Barcelone. Donc tu fais des concessions parce que ça sera le cas. Et derrière, tu dis bah maintenant il nous faut Dybala. Mais la Juve, ils vont faire. Ah bah écoutez, Dybala, ça va être 150 maintenant. Et puis voilà.
C'est discuté déjà parce que la Juve, ils veulent vraiment le vendre.
D'accord.
Et Dybala, il est. Il est prêt à venir.
On en parle dans un instant avec la suite du Mercato. On va vous parler, pourquoi pas, de Dybala. J'avais prévu de parler d'Holberg, de Claude Maurice, de Sakai, de Costil, de Lewandowski et même de Bobichon. 23h43, c'est l'after, aussi, c'est on revient.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Timothée Mémon.
23h46 de retour dans l'after. Et pour la dernière ligne droite, on va continuer de parler du mercato avec pas mal d'informations. Simone, tu voulais nous parler du cas Dybala, un petit peu des répercussions avec ce jeu, on va dire, à 3 bandes que pourraient provoquer les départs chez les uns, chez les autres. Dybala, sur le départ, pour Paris, pourquoi pas?
Du club, il y a un point de vue du joueur. Même aujourd'hui, tirage au sort de la Ligue des Champions, quelle a été la réponse plus marquante du directeur, du vice-président Nedved, c'est le mercato n'est pas encore terminé, jusqu'à la quinte est ouverte, tout peut se passer, même un départ de Dybala, et lui répondre oui, tout est ouvert. Donc la Juve a tout intérêt à les vendre. Lui, selon mes infos, veut s'imposer à la Juve. Il considère aussi que l'effet que Sarri est arrivé et que Mertens a marqué énormément de buts avec lui dans cette position de faux neuf peut le relancer et lui faire vivre une saison des protagonistes à côté de Cristiano. Apparemment, pour Cristiano, c'est mieux de jouer avec Higuain. Donc, il y a cette différence de point de vue entre la star de l'équipe, les présidents et les dirigeants. Et Dybala, qui pour l'instant veut chercher de s'imposer.
Ronaldo, il ne veut pas trop jouer avec lui.
Ronaldo se trouve mieux avec quelqu'un qui travaille pour lui
genre
ouvrir les espaces.
Comme
c'était Mandzukic qui voulait pas trop les faire, mais il l'a fait à un certain moment, après il a arrêté. Et là, Higuain, qui pour rester à la Juve, il est disposé à tout faire. Donc même à travers.
Même habiter à côté de chez Simone à Turin.
Même habiter à côté de moi et à récupérer les ballons que Ginevra lance de l'autre côté du mur. Donc voilà.
Tu sais que Ronaldo et Higuain, c'était pas l'amour fou quand même à Madrid. Hein.
Mais attention, mais là, il y a une époque où les deux étaient deux stars qui étaient en train de grandir. Là, une est devenue une star mondiale, l'autre, c'est quelqu'un qui l'a eu vers et revient. Et il cherche de se garder une place parce qu'il a été les chouchous de l'entraîneur en certaines époques. C'est différent. Donc, Dybala, pour moi,
et
il veut chercher de s'imposer jusqu'au dernier minute.
Que Mandzukic, ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Mais bon.
Et Mandzukic, c'est différent. Mandzukic, aujourd'hui, n'aime pas trop, aimerait plus avoir un rôle central. Pas travailler pour un autre, et c'est les premiers joueurs que la Juve ne devrait pas mettre sur la feuille de la Ligue des Champions. Mais
dans ce cas-là,
même,
il voudra partir. C'est une affaire de prendre Mandzukic,
mais
c'est un bon joueur.
Même, lui aurait refusé chaque offre qui arrivait, Manchester, PSG. Les seules portes qu'il garde ouvertes, c'est pour le Bayern de Munich. Mais pour l'instant, il n'est pas trop convaincu.
Il va aller faire quoi là-bas? Il y a Lewandowski quand pile les buts.
Bien sûr, mais le problème de Mandzukic, c'est qu'on le connaît aussi un peu en Allemagne, avec Wolfsburg et tout ça. Et c'est quand même ce qu'on appelle en Allemagne, d'ailleurs d'une façon un peu péjorative, les Hitch. Hein. Faut pas dire ça, c'est l'ex-Yougoslavie. Hein. C'est-à-dire très individuel. Ils sont pas des gens qui sont forcément très très collectifs dans l'équipe. Et moi, Mandzukic.
Ah, Mandzukic à la Juve en matière de collectif.
Parce qu'Allegri lui demandait ça, et lui, il l'a fait.
Il l'a fait.
Mais à un certain moment, il en a marre de le faire.
C'est
un neuf qui n'a plus envie. Eto'o l'a fait une saison avec
Mourinho. Et donc, ils vont pas prendre Icardi non plus, qui veut pas quitter l'Inter, qui est prêt à pas jouer à l'Inter. Il y a quand même
aujourd'hui.
Dans ce mercato, il y a des choses assez hallucinantes quand même. Imagine que rien ne bouge. Dybala part pour pas jouer à la Juve. Icardi part pour pas jouer à l'Inter. Mandzukic part pour pas jouer.
Insigne reste à Naples. C'était pas gagné au printemps dernier.
Il y a des choses dans ce mercato qui sont là. Soit entre aujourd'hui et lundi, il se passe des choses.
Choupo-Moting part pour jouer.
Le Real, ouverture de la Ligue des Champions.
Mais là, on parle quand même de. Excuse-moi.
Ça te fait rire, toi.
Trois avant-centres. Mandzukic, c'est bon niveau. Mandzukic, joue avant-centre. Icardi,
but en finale de Ligue des Champions,
c'est
très beau.
C'est très beau joueur. Dybala, c'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer.
Et aujourd'hui, pour dire la situation d'Icardi est tellement un paradoxe que Zanetti, après la vice-président lui aussi de l'Inter, après le tirage, dit l'Inter est même ouvert un prêt d'Icardi. Ils sont prêts à tout pour les dégager.
Lui ne veut pas
partir. Donc, tu t'es posé la question, qu'est-ce qu'on est en train de vivre dans ces derniers jours de mercato?
Comment on peut traiter à l'arrivée un joueur, il est super fort. C'est vrai que sa femme est insupportable et elle pourrit la carrière du joueur, mais c'est un magnifique avant-centre, Icardi. Quand
on continue à avancer sur le mercato. Dolberg et Claude Maurice, c'était attendu, mais c'est officiel, sont à Nice. River et Fournier reprennent leur poste de président et de directeur du football. Bonne recrue. Sur le terrain et en dehors.
Le spécialiste de Claude Maurice.
Non, mais très bonne recrue sur les deux jeunes, oui, parce que ils ont montré des choses et surtout les manques qu'il y a à Nice aujourd'hui dans l'effectif et l'équipe dirigeante, bien sûr aussi, parce que River et Fournier avaient fait du très bon boulot sur les années d'avant avec moins de moyens. Et avec plus de moyens, certainement qu'ils auront le bon réseau pour attirer de la jeunesse et aussi de faire des coups avec des joueurs d'expérience, parce que c'est ce qu'il leur faudra. C'est une très bonne nouvelle pour Nice. Ouais.
Dolberg, avec l'Ajax, vous en avez gardé des bons souvenirs?
Très bon joueur. Il faut peut-être aussi voir d'où on vient. Il y a des gens aujourd'hui qui deviennent exigeants avec Dolberg, mais il y a quelques années en France, on ne pouvait même pas imaginer avoir un Dolberg départ.
Ben oui, arrivé. Exact.
C'est-à-dire qu'il faut arrêter de
Dolberg. Non, mais il y a une saison quand même, et on l'a vécu ensemble sur RMC Sport, de Ligue des Champions exceptionnelle aussi grâce à des joueurs comme ça. Quoi. Donc,
oui, non, mais d'accord.
C'est pour ça.
Oui,
mais
Dolberg, il est extraordinaire.
Bah ouais,
il perd sa place parce qu'il est blessé aux dépens de Tadic qui s'est imposé donc dans l'année folle de qu'on vient de suivre. Mais c'est un
bon sens. Il y a 13-14 mois, moitié d'Europe demandait Dolberg.
Exactement. Il était annoncé dans les plus grands clubs.
Un autre joueur que l'Europe s'arrache, Hiroki Sakai prolonge à l'OM. Ah, ça vous surprend?
Tant mieux pour l'OM, c'est un bon arrière-droit.
On se faisait la remarque, on avait l'impression qu'Hiroki Sakai c'était le seul joueur qui semblait vraiment s'épanouir et se plaire à Marseille.
Mais
c'est pas possible.
Non, mais si.
Sakai, Hanovre, c'est une catastrophe, quoi.
Ah oui.
Et on me dit, oh, il est très bien à Marseille.
Franchement, Polo, c'est vrai que quand tu regardes l'effectif de Marseille, les joueurs,
j'étais mauvais.
Les joueurs, après, c'est pas le meilleur joueur de notre championnat, mais bon, apparemment, tout le monde en est content. Écoute, dans le groupe, ça se passe bien. Et ça, c'est l'intérieur du groupe qui le dit. Donc,
il est devant Bounassar.
Donc, non, mais. Et c'est bien de prolonger, mais c'est bien aussi de s'attarder, parce que là, on va en parler dans quelques temps, mais il y a aussi le cas Flo Thauvin. Qui voulait partir. Alors je sais pas s'il y a vraiment eu des offres ou s'il va y en avoir, mais apparemment ils veulent le garder parce que c'est l'attaquant le plus prolifique de Marseille depuis 2 ans. Mais il lui reste 2 ans de contrat. Il n'y a pas eu de proposition de prolongation non plus pour lui. Donc comment ils se démerdent les dirigeants là-dessus? Tu lui dis tu restes, tu dois pas partir. Mais par contre il y a pas de proposition de prolonger. Et le joueur, au d'un moment, il va péter un câble et il va dire OK, il va faire comme les autres, il va rester encore 1 an et demi et puis il va partir gratuit. Et c'est la seule valeur marchande intéressante de l'Olympique de Marseille. Donc c'est incroyable de réagir comme ça avec ces joueurs-là. Mais bon.
Messieurs, une information qui vient de me parvenir. On a beaucoup entendu parler de Stanley Nsocki, le défenseur parisien pendant ce mercato. On sait que Nice était intéressé. L'OL cherche également à s'attacher ses services et la Juve sera également rentrée dans la danse.
Il y a
beaucoup de monde.
Il y a échangé avec Alexandro, non?
Non, il y a.
On assiste à des choses dingues dans ce mercato.
Ouais, il y a surtout un gros travail des agents, là. Bravo, pour toutes les infos qu'ils donnent, là. Parce que pour aller vérifier que la Juve veut absolument, ou du moins veut se mettre sur Nsonki, et pourquoi le PSG ne le garde pas alors dans ces cas-là, si c'est un phénomène
latéral gauche d'avenir, donc
non, mais lui c'est pas un latéral gauche, hein, parce que si lui, non, mais il est gaucher, mais si lui joue au poste de latéral gauche, l'attaquant il va avoir mal à la tête, du moins il va pas voir les ballons, hein.
Messieurs, Lewandowski prolonge,
oui, une semaine qu'on le sait, ça.
C'est officiel. C'est officiel.
En fait, ce qui me fait toujours rigoler, si tu veux, c'est tous ces grands joueurs dans les grands clubs qui tous les 6 mois prolongent à chaque fois un peu plus, etc. Donc c'est un peu pénible. Oui, d'autant plus qu'il a plusieurs fois s'est posé la question de savoir s'il fallait qu'il continue. Bon, il va finir sa carrière, je pense, au Bayern. C'est une bonne chose. Par contre, est-ce que tu me permets 10 secondes sur Guerrero?
10 secondes.
Parce que bon, j'ai suivi un peu tout ce qu'on a raconté pour Paris. Moi, je peux vous assurer de sources sûres que Lucien Favre cherche et pèse de tout son poids pour qu'il prolonge à Dortmund. Je ne sais pas si ça va se faire.
Ah oui.
Je peux vous assurer que Lucien Favre le fait. D'autant plus que Thorgan Hazard s'est blessé. Donc,
messieurs,
j'ai une autre info aussi. Jérémy Ménez vient de résilier son contrat au Mexique aussi. Il est libre. Donc, si un club de Ligue 1 peut se mettre dessus, je pense que c'est une très bonne idée. De sources sûres, il a envie d'un nouveau challenge. C'est pas un vieux joueur. Et voilà.
Messieurs, j'ai une question à vous poser.
Gilbert Brebois, il est là?
Eh oui, il est là, Gilbert Brivois. Il est avec nous depuis la Commerzbank Arena. Bonsoir, Gilbert. La première question qu'on a envie de te poser, comment ça va, mon petit,
ce soir?
Ça va comme un mec qui s'est fait ouvrir en deux, quoi.
C'est une belle image.
On va pas se mentir, hein.
Tu avais quelques informations sur l'ambiance, sur le contexte dont on a un peu parlé tout à l'heure.
Dans le jeu, je pense que vous en avez parlé, il n'y a pas eu photo, on était largement en dessous, c'est une leçon totale, on n'a rien fait, quoi. Enfin, Strasbourg, on n'a rien fait, aucune construction, il n'y avait pas 3 passes, c'est bon. Voilà. Après, hier soir, moi-même qui mettais en avant mon cher Polo, le public allemand, comme un modèle absolu.
Je n'ai jamais parlé de modèle absolu.
Non, mais c'est Gilbert.
Non, c'est moi qui en ai parlé.
Ah bon.
C'est moi qui en ai parlé.
Hier, on disait c'est calme et tout. Ça a été non seulement exécrable, mais il paraît que dehors, là, c'est en train de péter sérieux.
C'est fort possible.
Moi, je vais te dire, Mollard sur l'arbitre à la mi-temps, ça fait quand même très longtemps qu'on n'avait pas vu ça en Coupe d'Europe. Et j'étais à 2 mètres, donc je l'ai dit, j'ai vu de mes yeux. Donc là. Voilà, donc c'était quand même très très chaud.
Quand même, une différence.
Ah, il était malade.
Pardon ?
Mec, il était malade.
Ouais, en fait, Daniel estimait qu'il y avait une différence notable entre le mollard et le crachat.
Oh, ah oui, d'accord. Bon, oui, effectivement. Bah, ça revient à peu près au même quand même. Donc, disons qu'il. En fait, moi, je vois au-delà du jeu, il n'y a pas eu photo. Hein, je veux dire, on va pas. Il n'y a pas de débat. C'est réglé. Voilà. Je pense que, voilà, il y a aussi. La façon d'aborder la Coupe d'Europe, c'était un arbitre très, très inexpérimenté. Le mec, il a perdu les pédales globalement. Je pense que, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais.
Ouais, mais Gilbert, je veux bien.
Ça a participé quand même. Non, mais d'accord. Mais même si Strasbourg était loin du niveau.
Non, mais oui, voilà. Donc, c'est.
Voilà, est-ce que c'est fait manger et, comme est-ce les que, Strasbourgeois sont fait
est-ce
manger.
Que c'est, et donc, est-ce que c'est utile, Gilbert, de reparler de tout cet épisode à la mi-temps et le contexte? Bah ouais, c'était très chaud, comme ça arrive dans beaucoup de stades.
Non, bah, je vais quand même vous raconter.
On écoute Gilbert très rapidement.
Je vous raconte ce qui s'est passé. En fait, Rebic se fait sortir et il est au bout du tunnel. Torse nu, et il attend l'arbitre, énervé, à la mi-temps. Là, le quatrième arbitre se pointe, il le secoue comme un prunier, quoi. C'est un truc, quand même, entouré par plusieurs joueurs de Francfort, qui, en gros, c'est limite traquenard. Donc, bon, déjà, ça, c'est quand même assez étonnant. Je veux dire, bon, là-dessus, t'as les Strasbourgeois qui descendent, ça chauffe un peu parce que les mecs se mettent au sel, donc on a l'entraîneur des gardiens chez nous, Jean-Yves Lourdes, qui est quand même, le type, c'est une montagne, hein.
C'est un ours.
Il vient s'interposer. Thierry Loret, quand même, qui se fait repousser avec une main dans la tronche, voilà. Le secrétaire général du club qui se prend une baffe. C'est-à-dire, c'est quand même des trucs qu'on ne voit pas en Coupe d'Europe. Alors, une nouvelle fois, il n'y a pas photo au niveau du jeu. Moi, je veux pas, c'est pas une excuse. Enfin, ce qui s'est passé là, c'est pas possible. Et donc, moi, j'étais juste devant parce que j'étais en train d'interviewer Djikou à la mi-temps. Et là, l'arbitre se pointe et les spectateurs, en fait, qui étaient juste au-dessus et qui, en gros, avaient déjà tout jeté sur les joueurs, des verres et tout. Se retrouve à 1m50 de l'arbitre. Il y a les petits tunnels à souffler, là, qu'en général on sort pour protéger tout le monde. En fait, ce tunnel à souffler n'a pas été déployé.
Merci beaucoup, Gilbert, en tout cas, d'être venu nous apporter cet éclairage. On est un peu pris par le temps. On aura l'occasion d'en parler également dans l'after demain. Ce sera avec.
C'est bien la première fois que je me fais couper comme ça.
Gilbert, tu veux qu'on vienne te chercher ou ça va aller?
Déjà, tu vas apprendre à gérer le temps. Gilbert, vous souhaite une excellente soirée.
On vient te chercher, Gilbert. On ne te lâche pas.
Pour l'after.
Reste au stade. Ça craint dehors.
Ouais, fais gaffe.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.